Une émission de La Frappe, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Un reportage Sun de Cécile Roland.
C'était vraiment très intéressant.
On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Hey, hey, hey.
I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck. That day, I cut my throat.
Salut, bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission Info Culture un mercredi sur deux sur Radio G. C'est la reprise. Salut les gars.
Salut. Hey,
salut tout le monde.
Salut tout le monde.
On est au complet.
Yes. Dream Team.
C'est la rentrée.
C'est ça.
C'est la rentrée. Salut Seb.
Salut, salut, salut.
C'est toi qui es aux manettes ce soir.
Oui, alors là, à mon avis, il risque d'avoir quelques petits cafouillages,
mais bon, on va essayer de gérer. On talent. Est content de se retrouver pour parler de cinéma, de musique, de bande dessinée, ouais. De tout ce qu'on aime.
Exactement.
C'est Bande Geek Mafia.
C'est votre émission Info Culture, une fois tous les 15 jours, sur Radio G.
101.5.
La radio qui fait le point.
Surtout qu'on a
toujours.
Il y a eu un été assez riche, du coup, je pense qu'on a plein de choses.
On a plein de choses. Moi, j'ai lu plein de bouquins, on a vu des films, on a de la musique à vous faire écouter. Bah, d'ailleurs, on va démarrer tout de suite avec une proposition de Pablo.
Oui.
Sur sa clé USB.
Sur sa clé USB, bah voilà, là, vous m'avez pas préparé, donc
non, si, là, c'est pour t'éviter de chercher.
C'est ça.
Bah, là, voilà, j'étais en train de chercher, là, justement.
Pablo, qu'est-ce que c'est et pourquoi ce choix?
Alors, qu'est-ce que tu as mis sur ta clé là?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a The Void, un dernier c'est morceau bien. Qui vient de sortir.
Alors, on peut expliquer The Void, c'est quand même au départ.
Alors, vas-y.
Eh ben, c'est un groupe. Oui,
mais il y a des gens connus dedans.
Ah oui,
il y a The Strokes.
Alors oui, c'est Julian Casablancas qui a fait notamment quelques collaborations, dont le terrible titre Where Eagles No Fly, qui est vraiment un truc que je vous recommande. C'est un des meilleurs titres que j'ai entendu des 5 dernières années. C'est vraiment formidable.
2013, je crois. Et en fait, ils ont sorti déjà 2 albums. Et là, ils sont en train de sortir le 3e album.
D'accord.
Et donc là, ils ont lancé un premier titre qui s'appelle The Prophecy of the Dragon.
Ah, on va écouter ça alors. Et The Voids.
Ouais, alors il faut juste que je retrouve le fichier.
Et du coup, alors cette fois, c'est le groupe seul, c'est pas en collaboration, c'est ça?
Non, non. Là, c'est
de nouveau avec Julian Casablancas.
Ouais, complètement.
Ah, bah, formidable.
Complètement. Je te dis, dans leur 3e album. Bah, c'est vrai que Julian Casablancas, il est super créatif.
Ouais, enfin, oui.
C'est vrai que là, ils sont en train d'ailleurs de sortir un autre album avec les Strokes. Ils ont déjà lancé des trucs.
Je crois que c'est bon, les gars.
Ils étaient en tournée et là, c'est The Voids. Prophecy of the Dragons sur Radio G 101.5.
Et
Il est là, Monseigneur, l'heure de se réveiller.
Encore.
C'est la chronique cinéma.
Mais il en manque une.
C'est ça. Alors cinéma, ce soir dans Bande Geek Mafia, on va vous parler de plusieurs films puisque cet été on a eu le temps d'aller au cinéma.
Yes.
Alors moi je vais démarrer avec une déception et une bonne surprise.
Ah.
Voilà.
Ça c'est déjà bien.
Alors la déception. D'abord je vais commencer en disant que j'aime beaucoup Quentin Dupieux, que je suis un grand fan de ses films. Mais que j'ai été déçu par Yannick, le film qui est sorti cet été. Alors, non pas parce que le film est très court, hein, les films de Dupieux sont jamais très longs, et je trouve que c'est plutôt une qualité, ça. Mais parce que c'est pas aussi étonnant que d'habitude, c'est pas aussi drôle que d'habitude, c'est pas aussi surréaliste. Voilà, c'est un huis clos dans un théâtre. C'est un spectateur qui se lève et qui interrompt la pièce de théâtre parce que vraiment, il la trouve nulle. Voilà. Et donc ça dure une heure. Il y a des échanges entre la salle et les acteurs, entre Yannick, donc joué par Raphaël Quénard, et les acteurs. Donc sur scène il y a Pio Marmaille. Sur scène il y a aussi Blanche Gardin. Voilà, donc des acteurs que vous connaissez et qu'on apprécie d'ailleurs. Hein. C'est pas une question de qualité de jeu. Je trouve que par exemple Pio Marmaille est très bon. Hein. C'est un très bon acteur. Mais là je sais pas. Moi je trouve que le film décolle pas. Je trouve que ça sonne faux. Je m'attendais pas du tout au plus à cette chute. C'est-à-dire que j'imaginais une autre fin, un peu plus peut-être plus étonnante, un peu plus voilà surprenante. Voilà. Bon, petite déception. Quoi.
T'as trouvé ça poussif?
Non, c'était pas comme un film de Dupieux en fait.
Ouais.
Tu vois, je m'attendais pas à ça.
Ouais.
Bon, voilà.
Puis c'est culotté, mais bigrement court quand même, une heure.
Ouais, mais les films de Dupieux durent souvent une heure et quart, 1h20. Mais moi, je trouve que c'est plutôt bien.
Le Dain, il était un peu plus long que ça.
Non, c'est très court.
Enfin, ah oui,
les films de Dupieux sont jamais très longs. Jamais. Il n'y a aucun film qui est très long.
Et en huis clos, il y avait, tu sais, ce film où il y a justement Poulvorde qui sont.
Ah bah ça, c'est Au Poste.
Voilà,
c'est
très bon.
Génial.
Très bon.
Non, mais moi, je suis un fan de Dupieux. Hein. J'adore son cinéma. Mais là, honnêtement, pour moi, c'est son film le plus faible.
Ouais, d'accord.
Okay. L'explosion, c'était au moment de la levée du spectateur, quoi.
L'explosion?
Ben, tu as dit, là.
Oui, non, même pas.
Même pas?
Non, il se lève, il dit, bon, bah, voilà, les gars, moi, votre pièce de théâtre,
oui,
ça me plaît pas trop. J'ai fait une heure de bus pour venir. Enfin, voilà. Bref.
Ouais.
Bon, bref.
Alors, tu nous le recommandes.
Le film a eu du succès, hein, quand même. Je crois qu'il a fait 400 000 entrées. Alors, parce qu'il est plus facile d'accès que les films habituels de Dupieux, puisqu'il est moins farfelu, moins surréaliste, moins... Voilà.
Et puis attends, il y avait un coup de promo, parce qu'il avait fait l'entrée gratuite à tous les Yannick.
Bah oui, si tu t'appelles Yannick,
non.
C'est gratuit.
Si, si.
Mais
c'est
excellent.
Alors ça, c'était la petite déception de cet été. Par contre, une belle découverte, une belle surprise. Pablo va en parler également, il va un petit peu creuser le sujet. C'est Anatomie d'une chute. Un film français de Justine Triet qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Alors, Florence et moi, on y est allés parce que justement, il a eu la Palme d'Or. Et en fait, ben, c'est mérité. C'est mérité. Ouais, on verra ce que Pablo en pense, mais je crois qu'il est d'accord. Alors, c'est un film très mystérieux. C'est un père de famille qui meurt. Mais est-il assassiné?
Oh, yeah.
La question, c'est ça. C'est est-ce qu'il est assassiné? Est-ce qu'il s'est suicidé? Est-ce que c'est un accident? Etc., etc. Sa femme est soupçonnée. Voilà. Et c'est pas vraiment un thriller, c'est pas vraiment un film par exemple qui se passe dans un tribunal, il y a des scènes au tribunal aussi hein. Mais c'est pas un film de tribunal, c'est voilà. On est vraiment dans un mystère, voilà. On est dans un mystère. L'actrice qui joue la femme donc du personnage principal. Enfin, en tout cas, c'est elle le personnage principal. L'actrice qui joue le personnage principal, la femme donc, elle est extraordinaire. C'est une Allemande, c'est une actrice allemande. Elle est tellement extraordinaire qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'elle pense. On ne sait jamais vraiment quelle est sa vraie posture et son rôle dans cette histoire. C'est génial en fait. Voilà. Moi, je vous le conseille. Si vous aimez les mystères, Agatha Christie, je sais pas. Peut-être que c'est un peu caricatural de dire Agatha Christie d'ailleurs, mais il y a un truc comme ça. Hein, ça se passe dans la neige. Alors moi, par contre, j'ai vu plein de références à Shining de Kubrick. Mais plein, quoi. Le petit garçon, le fils, s'appelle Daniel.
Exact.
Comme Danny. Mmh. Il a la même coupe de cheveux que Danny. Mmh. Donc c'est ça qui nous y a fait penser.
Bien joué.
Ça se passe dans un chalet dans la neige. Ouais. Donc c'est isolé de tout. Et le père, il n'arrive pas à écrire un livre.
Ah oui.
Ouais, donc vous voyez, il y a plein de références à Kubrick. Voilà, donc une très bonne surprise.
Alors bravo, parce que j'y avais pas du tout pensé.
Ah ouais, moi j'ai vraiment
tout à fait raison.
Ça m'a frappé.
Et en plus, il coupe du bois. Avec une hache.
Alors on parle pas trop, on va pas parler de l'arme du crime. Non, en fait,
ce qui tombe sur une bûche quoi.
Ce qui est génial, c'est que voilà, il tombe.
Le comme une bûche.
Il tombe comme une bûche.
Mais on ne sait pas.
On ne sait pas s'il s'est suicidé, si c'est un accident, si c'est un meurtre, si sa femme l'a tué en gros, etc., etc. Et on cherche pendant tout le film. Le film qui dure 2h30 pour le coup.
2h30. Ouais. Tout ça pour arriver au colonel Moutarde dans le champ, avec le chandelier.
Alors, on vous racontera pas la fin.
Eh ben non, justement.
Vous ne racontera pas la fin. Ouais. C'est ça qui est génial. C'est ça.
Et comme tu disais, c'est vrai que je trouve que le coup de maître de Justine Triet, c'est de laisser le doute. C'est-à-dire que, en fait, on va suivre le film. Et effectivement, toute une anatomie, toute une dissection de ce couple, de son intime, et la femme, la personnage principal, reste opaque. Et à la fin, bah, ou d'un bout à l'autre, tu sais pas. Alors ça, je trouve ça assez génial, parce qu'effectivement, on peut pas vraiment classer ce film comme un thriller, où on aurait une sorte de retournement, de choses comme ça. Pas du tout. Et pourtant, on est tenu en haleine d'un bout à l'autre.
Ah oui, on s'ennuie pas du tout pendant 2h30.
Et c'est vrai que c'est aussi un film de procès, mais c'est pas tant pour l'histoire du procès, c'est intéressant pour connaître la justice, hein, c'est assez réaliste sur la justice française. D'ailleurs, l'avocat général s'en donne à cœur joie. On sent
il est un peu caricatural.
Méchante. Non, il a une espèce de méchanceté gourmande à l'attaquer.
Il surjoue, mais c'est volontaire, je pense. Ça va bien au personnage.
Carrément. Il est méchant, le sent un peu. Il cherche la petite bête, il appuie là où ça fait mal. Effectivement, moi, ce qui m'a super intéressé, c'est qu'en fait, normalement, ce qui est la part intime, le jardin secret d'un couple, bah, c'est ce qui doit rester caché, c'est ce que les gens ne savent pas. Et bah, là, dans un procès, tout est déballé, tout est disséqué, tout est débattu devant les yeux malvoyants, je veux dire, de ce jeune Daniel.
Le petit garçon est malvoyant. Ouais.
Il est atteint d'une malvoyance. Mais alors ça c'est extraordinaire.
C'est important aussi dans l'histoire du film.
Ça c'est hyper important.
Dans l'intrigue du film.
Parce que alors l'acteur, je le nomme quand même parce qu'il s'appelle Milo Machado Graner. À mon avis, on va entendre parler de lui parce que franchement, il est extraordinaire, ce gamin.
Avec son chien.
Ah ouais.
Il promène son chien quand son père meurt.
C'est ça. Et donc, il va être le principal témoin de l'événement.
Voilà, sauf qu'il est aveugle.
Il est aveugle, et en même temps, c'est lui le plus clairvoyant. C'est lui, il a une espèce d'extra lucidité. Il est d'une intelligence redoutable, hypersensible. Et alors moi, j'ai vu aussi une petite référence à l'aveugle Tirésias, mais bon, c'est mon côté grec. Vous savez, ce devin chez Homère qui avait été rendu aveugle parce qu'il avait osé voir la déesse Athéna nue, et du coup Athéna le rend aveugle. Mais comme c'est un enfant, elle va lui donner le don de divination. Il verra par l'esprit le futur. Bon, moi j'ai vu ça, mais
j'ai beaucoup aimé Pablo, si je peux me permettre.
Vas-y.
C'est les flashbacks. Parce qu'en fait, le père, on le voit jamais. Enfin, on le voit mort, mais on l'a jamais vu avant et on le revoit seulement dans deux flashbacks. En fait, et c'est des moments hyper importants dans l'histoire.
Clairement.
Voilà. Et Pablo, moi, je rajouterais, pour ton côté grec, tu portes très bien la toge. Donc voilà.
Et t'as vu? Je m'entraîne.
Donc j'ai pas de caméra.
C'est ça.
Pas encore.
Donc voilà, donc un très bon film. Hein.
Ah ouais.
Anatomie d'une chute de Justine Triet.
Ouais. Précipitez-vous.
Ouais. Excellent.
Un petit morceau de musique.
Avec plaisir.
Un petit morceau de musique. Enfin, bref, un petit morceau de musique qui va durer un petit. Un bon morceau, quand même. Explosion in the sky.
On aurait pu le mettre en fin d'émission, sinon.
Non.
Plutôt
un autre.
Oui, parce qu'il va nous faire une chronique musique après.
C'est pour ça. Plutôt un autre. Alors, d'accord.
Alors, celui que tu veux, au hasard. Pioche.
The Hive.
Bah non, justement, parce qu'il va faire une chronique musique. Passer de là.
Oui, d'accord.
Un morceau de Pablo.
Bah alors, donc.
Le Pitch Pixies.
Soit les Pixies, soit les Guns N' Roses. Alors,
les Pixies, c'est mieux.
Allez, les Pixies. c'est clair.
Parce que les derniers Guns, on en reparlera.
Voilà,
allez, hop, on va mettre tout le monde d'accord.
Ouais.
On va mettre les Pixies.
Ah bon, plus.
Super. Dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G.
101.5.
La radio qui fait le point. Three pretty boys did Gabriel get. The youngest George by name, sir. Dog, not favored much by fortune or by fame, sir. Mm-hmm.
Donc c'était Daggerel, le nouveau morceau. Puis nouvel album des Pixies.
Il est pas nouveau, il est sorti il y a un an.
C'est ça. Non, en fait, il est sorti il y a un an, mais c'est vrai qu'on l'avait pas.
Le dernier album.
Voilà, c'est le dernier album. On l'avait pas du tout passé. Et moi, j'étais passé un peu à côté. Et j'avoue que là, je l'ai découvert. Je trouve assez extraordinaire. J'adore. Et franchement, super quoi. C'est le plaisir de retrouver les Pixies.
Alors maintenant, c'est la BD.
Yes.
Qu'est-ce que tu as dans ton panier ce soir?
Oh, on va prendre un petit peu d'altitude.
On va prendre l'avion.
Ouais, on va prendre l'avion. Deux bandes dessinées sur l'aviation. Donc, la première qui est sortie aux éditions Grand Angle de Mani et Chevreau, la pin-up du B-24.
Eh bien.
B-24?
Ouais, B-24. Ouais, c'est pas un
B-25. Bombardier. C'est pas un B-52.
C'est pas un B-52. C'est pas un 17. C'est un B-24. Alors, donc le tome 1, Ali Lacan. Mon petit ami, c'est Ali Lacan. Je suis bien plus qu'une pin-up dessinée sur le nez d'un bombardier. Je suis l'ange gardien de mon B-24. 34 missions et pas une égratignure. Jusqu'à ce jour maudit du 5 mai 1944, où nous nous sommes crachés dans le désert libyen. Comment et par quel miracle le pilote Glenn Baxter s'est-il retrouvé seul et inconscient à proximité de l'hôpital de Tobrouk? 15 ans plus tard, l'ancien major Baxter est missionné par une société de prospection pétrolière en Libye. Il compte en profiter pour retrouver l'épave de son bombardier et découvrir enfin ce qui est arrivé à l'équipage d'Ali Lacan. Donc voilà, c'est une histoire en deux tomes. Donc voilà, ils sont sortis. Vous pouvez les trouver sans aucun problème. Hein. C'est une histoire qui est parue en 2020 et donc aux éditions Grand Angle. Et donc du coup, on a un petit peu une intrigue policière aussi en même temps. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a aussi du mystère. Alors,
il y a du mystère. Histoire. Il y a beaucoup de mystère. Et donc ça se lit très très facilement. C'est très bien. C'est une belle histoire. Il y a de l'amour. Il y a tout ce qu'il faut quoi. Et puis à la fin, il y a quand même une belle surprise que je vous laisserai découvrir en lisant la pin-up du B-24.
C'est donc, le tome 1, ça.
Et ben ça, c'est le tome 1. Je vous ai amené le tome 1. Ouais. Le tome 2, bon, donc on continue hein, sur la
suite. On continue sur la lancée.
Sur la lancée.
Et ben, très bien.
Alors là, c'est aux éditions Sarbacane. L'enragé du ciel, Joseph Safedine et Loïc Guyon. Alors donc là, l'étoffe du héros, pilote virtuose, inventeur de la photographie aérienne, officier courageux engagé de la Seconde Guerre mondiale, espion téméraire, homme à femme, ami fidèle, Roger Enhard ou le dessin exceptionnel d'un homme aux multiples facettes. Donc là, c'est un personnage qui avait donc édité dans les années 60 justement son livre avec ses mémoires, parce que justement, comme il est donc le pionnier de la photographie, l'inventeur de la photographie aérienne, c'est lui qui a développé justement ces appareils photo spécifiques propres à l'aviation pour observer par-dessus les lignes ennemies. Même si en 14 on le faisait aussi, mais lui il a perfectionné l'appareil, donc il a développé un type d'appareil vraiment particulier qui permet d'avoir des vues vraiment importante, large. Et donc voilà, bah on a la vie de Roger Enhard et on découvre un personnage quand même qui est assez truculent. Quand on dit ami fidèle, oui, fidèle pour l'amitié, mais pour sa femme,
c'est ce que tu as précisé.
Oui, c'est ce que j'ai précisé, mais
c'est peut-être pour ça son goût pour la photographie.
Ouais, peut-être. Et puis surtout c'est un destin assez particulier parce que au départ il ne fait pas partie on va dire de la bourgeoisie, son père est employé, mais le patron du papa s'est vraiment attaché à cette famille et va faire don de toute sa fortune et de son entreprise justement au papa. Et donc le papa, le fiston et sa sœur vont se retrouver obligés à gérer quoi finalement cette société. Et puis voilà, on a un personnage qui a un destin hors norme qui est donc ici décrit sous la forme d'une bande dessinée avec un petit cahier aussi de présentation avec des photos. Voilà, donc,
bande dessinée qui ressemble à un livre en fait.
Oui,
c'est relié. On la relire. Ouais.
Et,
ouais.
Et donc l'un des auteurs, Loïc Guyon, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, eh bien voilà, c'est l'un des descendants justement de Enhard. Donc voilà, c'est aussi en hommage à son aïeul.
Est-ce que tu nous rappelles les titres, s'il te plaît, Seb?
Alors, la pin-up du B-24 aux éditions Grand Angle, tome 1 et 2, hein, donc c'est ça clair. Je le conseille. L'enragé du ciel de Joseph Safedine et Loïc Guyon aux éditions Sarbacane. Donc voilà.
On écoute un peu de musique.
Alors
on a du Guns N' Roses par exemple.
Ouais.
On a du Lucid Anne, votre nouveau groupe préféré. C'est Lucid Sims, pardon.
Lucid Sims.
Lucid Anne, c'est un autre groupe. De...
Voilà. On va écouter.
Vous avez envie de découvrir?
Oui.
Ah, ouais, vous me faites plaisir.
Allez.
Alors Lucid Sims, c'est votre nouveau groupe de rock préféré.
Ah,
dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
Tu mets le 101.5, la radio qui fait le point, et yes. C'est parti, c'est maintenant.
Ça vient de sortir. Il y a 5 jours. Voilà, c'était Lucid Scenes.
Eh ben, c'était pas mal, hein, franchement, c'est agréable.
Ouais, voilà. Ouais, je trouve un rock chill comme ça, avec des bonnes guitares, ouais, nickel.
Absolument.
Ouais.
Dans Pancake Mafia sur Radio G.
Tout à fait.
Et maintenant, le rock and roll.
Musique, maestro.
Let's rock. Ah oui, musique, maestro, c'est bien.
Ben ouais. Music, please.
Tout à la bouche, c'est ce que
tout
je préfère.
Tout à la bouche, tu veux un petit générique, c'est ça?
Non, là, pas du tout, c'était très bien comme ça, je trouve ça trop chouette.
Ah ben,
alors, musique, attends, les enfants.
Allez.
Oh, waouh.
Wow. Oh, yeah.
Critical Shock Radio FM.
Alors, musique, les copains, et musique avec deux groupes ce soir. Et alors, ce que j'ai aimé, en fait, c'est que, bon, évidemment, c'est deux sorties récentes, c'est pour ça que je vais en parler. Il y a un groupe qu'on connaît très bien et un groupe qu'on connaît un peu moins. Enfin, toi, si tu connaissais Seb, on va en parler après. Moi, je l'ai découvert. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'est vraiment deux styles radicalement opposés. Mmh. Et voilà pourquoi je voulais en parler. Alors, d'abord, on va commencer avec ce qu'on connaît bien. Les Hives, bien sûr.
Yes.
Autoproclamés.
Meilleur groupe du monde.
Voilà. On connaît son chanteur un peu facétieux qui singe un peu Mick Jagger, mais un peu tu sais, sur le style, ouais. Qui sont habillés en noir et blanc, qui ont cette esthétique un peu 60s et dont on pourrait qualifier la musique un petit peu de garage punk. Tout à fait. Et donc leur dernier album, donc qui est sorti il y a pas longtemps puisque c'était le 11 août 2023, donc The Death of Randy. Alors attendez pour le nom. Fitzsimmons. Ouais. Alors pour info, quand même, parce que ça m'a quand même intéressé, je me suis dit mais qui est donc ce Randy Fitzsimmons, ouais. J'ai quand même retenté, t'as vu. Et ben en fait c'est le comme une sorte de sixième membre imaginaire du groupe en réalité qui serait derrière les manettes. En fait c'est une sorte de voilà de symbole. Et donc ce serait évidemment sa mort pour cet album là. Alors on avait déjà dans les émissions précédentes passées, parce que vous savez que hein, ce qui se fait souvent c'est qu'avant qu'un album sorte, eh bien fuite un titre ou deux sur YouTube notamment, et on avait parlé notamment de Bogus Upper Andy, ouais, qui a un très bon titre,
excellent,
avec un très bon clip.
Le clip est super drôle.
Tout à fait, qui est très drôle, absolument. Et on a vu aussi récemment Countdown to Shutdown. Et moi, je voulais vous parler d'un titre qu'on va peut-être écouter, je vous en dis un mot après, qui s'appelle Stick Up.
Allez, on écoute.
C'est pas le bon, là, j'ai l'impression.
Je crois que Momo est à la technique.
Romain. Ah bah, je suis content, ça vous a fait plaisir, parce qu'en fait j'ai choisi ce titre pour une raison, c'est ce que je vous expliquais en off. Ça diffère un peu de ce qu'on connaît du classique d'Hives, mais attention, pour les fans d'Hives, évidemment l'album ressemble aussi beaucoup à ce qu'on attend d'eux. Donc en fait il y a à la fois ce qu'on attend et quelques surprises.
Donc ils évoluent, c'est un peu plus varié.
Absolument, ouais. Petite mention spéciale pour le titre The Bomb et aussi le titre Trapdoor Solution, qui sont des titres hyper courts. Il y a un titre qui fait une minute, l'autre deux minutes, et ça ressemble beaucoup plus à la patte des Hives. Et évidemment celui que je vous ai choisi ce soir, évidemment, parce que je trouve qu'il était un peu différent et je l'ai beaucoup aimé.
Et je voudrais dire aux auditeurs, aux auditrices, qu'il faut absolument voir ce groupe en concert.
Absolument.
Voilà, il faut voir The Hives en concert, c'est une super
des bêtes
ambiance.
De scène.
Ouais, c'est des bêtes de scène. Ouais. Et je fais un petit coucou à Florence,
on l'embrasse.
Qui est une grande fan.
Coucou Florence.
Alors deuxième groupe les amis, deuxième groupe qui n'a absolument rien à voir puisque cette fois on part du côté du Texas. Alors on avait des Suédois avant, là on va partir sur des Américains originaires d'Austin et le titre de, du groupe s'appelle Explosions in the Sky. Alors moi j'ai découvert ça très clairement hyper récemment puisque l'album est sorti en septembre, là le 15 septembre je crois, donc c'est là aussi il y a très peu de temps. Et en fait, il s'agit de leur huitième album, c'est dire. Mais là, à l'inverse des Hives avec des titres très courts, très efficaces, très punchy, on est plutôt sur des titres vraiment longs avec une structure musicale qui est, ça démarre tout doucement et à la limite, c'est un instrument qui vient derrière un autre un instrument. Ça monte tout doucement pour après finalement redescendre tout doucement aussi sur la fin. Ça fait penser beaucoup à de la musique de film finalement.
Exactement, ouais. C'est ce que j'allais dire.
Ah bah non, mais ah ouais, il est formidable.
Non mais c'est clairement ça.
Et donc, oui, vas-y.
C'est psychédélique, en fait.
Absolument, absolument. Et donc, ouais, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce groupe.
Et si vous aimez Archive, par exemple.
Absolument, c'est absolument.
Un peu ce truc-là.
Et évidemment, le titre que j'ai choisi, bah, c'est un titre qui est relativement radiophonique parce qu'il fait que 4 minutes. Enfin, relativement, hein, c'est quand même plutôt lent. Mais par contre, je vous laisse écouter un peu et après, je vous donnerai évidemment le petit top 3 et un petit bon encore. Pablo nous le disait à juste titre en off. Oui, c'est complètement instrumental, c'est-à-dire on n'entend pas de voix. Hein. Voilà, je voulais juste vous citer deux, trois petits titres et vous faire aussi deux petits refs. Vraiment, si vous aimez ce genre, il y a un titre qui est formidable qui s'appelle It's Never Going to Stop. Excellent titre. Et Loved Ones, qui sont vraiment deux très très bons titres de cet album. Il n'y a que 7 titres sur celui-là. Sur le précédent, il y en avait 11. Et juste, et je finirai sur ça, si vous aimez ce style un petit peu de la musique qui monte vraiment crescendo jusqu'à ce que ce soit
une explosion dans le ciel.
Un sacré vacarme, ou une explosion dans le ciel, ouais. Comme disent les jeunes, je vous suggère aussi deux groupes que vous connaissez sans doute qui s'appellent The Good, The Bad and The Queen, dont le titre éponyme est un super titre comme ça aussi, qui monte structure crescendo. Ou alors Hovering Machine, du groupe Jill Is Lucky, groupe français aussi, si vous aimez ça. Donc voilà, c'était la chronique musique, je vous embrasse.
Merci.
Bravo, merci, quel talent.
Merci, merci, merci beaucoup. Ouais.
On peut peut-être écouter la fin, non. On va peut-être écouter autre chose, Seb.
Ouais, moi j'ai une idée. J'ai une idée.
Je le sentais, je le voyais.
Voilà. J'ai préparé un petit quelque chose et je pense que ça va faire plaisir à tout le monde.
C'est un quiz?
Non, bref. Je donne les premières notes et vous allez essayer de trouver.
Ouais, c'est ça.
Ça peut être pas mal.
Bien sûr.
Mystérieux, ouais.
Allez, s'il y a pas de son.
The Clash,
oh, yes.
London Calling.
Eh oui, bravo, tout à fait.
Eh ben c'est toujours bon ça.
Ça c'est bon. Bien sur Radio G.
101.5, la radio qui fait.
boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the ring and the crunch of thing. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going thin. Engines stop on him, but I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see, we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Ah, c'est London Calling. Ah merde, tu es en
retard. C'est un hommage à Charles III.
C'est ça.
Exactement.
Non mais je trouvais ça intéressant quand même. On avait parlé des Clash, je dis tiens, on va mettre un petit morceau de Clash.
Mais bien sûr, c'est un classique qu'on adore.
C'est un grand classique.
Et c'est trop bon.
Alors la suite, les bouquins, c'est bouquins.
Pour allez, Matt c'est ça.
Oula.
Excusez-moi.
Un petit morceau de pub au passage.
C'est pas
avec
possible.
Modération.
Bon,
alors,
avec modération.
Seb, tu as des bouquins à nous présenter?
Oui, alors très rapidement, des livres, des BD, tout ce qu'on aime. Alors, un chef-d'œuvre, des déceptions aussi, mais et puis des découvertes. Non, mais vraiment plein de trucs super.
Très bien.
Non, alors un chef-d'œuvre vraiment, c'est L'Esclave de Isaac Bashevis Singer. Je ne sais pas si vous connaissez cet auteur. C'est un auteur qui avait eu le prix Nobel de littérature il y a très longtemps. Et L'Esclave, bah, comme son nom l'indique, hein, ça raconte l'histoire d'un homme qui, alors on ne sait pas exactement à quelle époque ça se passe, mais on sait que ça se passe dans en Europe de l'Est. Et cet homme, en fait, est juif. Son village a été rasé lors d'un pogrom. Et il est le seul survivant. Et il va être soumis à l'esclavage, soumis à un maître qui va la servir. Et il va essayer de s'échapper, bien sûr. Il va aussi tomber amoureux. C'est aussi une histoire d'amour. Ah. Il va tomber amoureux d'une des filles du village qui n'est pas juive, elle, pour le coup. Hein, qui est catholique, chrétienne, enfin voilà. Et donc, leur amour est impossible, etc. Il veut s'échapper, ils vont s'échapper tous les deux. Enfin, c'est une aventure incroyable, mais ce bouquin est un chef-d'œuvre. Voilà, ça s'appelle L'Esclave d'Isaac Bashevis Singer. Je vous le conseille. On le trouve en livre de poche, pas cher, c'est sorti dans les années 60, hein, c'est pas récent.
Ok, super.
Un livre jeunesse, littérature jeunesse, Benoît Mainville, Mauvaise graine. Alors, c'est vraiment pour les jeunes, mais c'est hyper bien, ça parle de foot en salle. C'est un bouquin qui parle d'une bande de jeunes qui fait du futsal et qui se découvre. Voilà, c'est l'adolescence, c'est la jeunesse, c'est le sport et c'est la compétition. Enfin, c'est hyper bien écrit. Benoît Mainville, c'est un fan de métal. Il fait des chroniques aussi sur le métal et il écrit des bouquins pour les jeunes et c'est super. Voilà. Aurélie Palu, c'est un bouquin sur l'enfance d'Albert Camus. Alors là, c'est pas de la fiction. C'est une biographie d'Albert Camus, mais son enfance en fait, et comment son enfance a eu une influence sur sa pensée.
Et ouais.
Et c'est super intéressant. Il y a plein de choses que j'ai découvertes ou que j'ai redécouvertes et qui permettent comme ça de mieux comprendre l'humanisme, on va dire.
Ouais, qui permet d'éclairer pas mal des nouvelles qu'il avait faites, noces.
Voilà.
Tout ça, ok.
Ouais, c'est superbe. Ça. C'était vraiment excellent. Deux bouquins très faciles à lire pour l'été ou pour l'automne ou pour se reposer, mais vraiment des
ou
bouquins.
Le train.
Et le train. On oublie trop souvent le train.
Oui, quel plaisir.
C'est La Tresse de Laetitia Colombani et Soleil amer de Lilia Hassen. Ce sont deux petits bouquins. C'est des histoires de famille, c'est des histoires de femmes, c'est des histoires de liens, de rencontres, etc. C'est des très jolis bouquins, c'est très facile à lire, c'est sans prétention, mais ça, c'est très agréable, voilà. Et puis quelques BD. Alors La Chambre des officiers, Seb m'avait prêté la BD adaptée du roman magnifique hein, sur la Première Guerre mondiale. Et puis le grand Paul m'a fait passer Le Château de Mathieu Sapin. Donc là, on est pendant la présidence de François Hollande en fait, et on voit comment se passent les réunions, toutes les décisions politiques. Enfin voilà, donc Mathieu Sapin, il est en immersion comme ça à l'Élysée, on va dire. Donc le château, c'est l'Élysée en fait. Et on découvre tout l'envers du décor, c'est vachement bien. Et puis si vous voulez rigoler, je vous conseille Le Guide du Mauvais Père. Le Guide du Mauvais Père, c'est une BD très très drôle.
Ah.
Et donc ça fait du bien, voilà, pour
ça m'intéresse.
Le Guide du Mauvais Père.
Ouais, voilà.
Une déception, le chant des cris d'Adrien Genoudet. Il veut faire de la littérature, mais c'est raté. Et puis un livre d'histoire que Seb m'a passé, Jean-Clément Martin, Penser les échecs de la Révolution française. Excellent bouquin si vous voulez faire le point sur la Révolution française, ses réussites, ses échecs, la contre-révolution, etc. Et puis surtout, comment on a transformé un peu les événements de la Révolution française à des fins politiques, surtout à l'heure actuelle. Voilà. Voilà une belle sélection. Moi, j'ai eu grand plaisir à lire cet été. Ça fait du bien.
Eh ben, merci pour cet éclectisme, en plus.
Eh ben, ouais.
Ah, c'est éclectique. C'est ça.
C'était parfait. C'était génial. Il faudra réécouter tout ça pour tout renoter parce que
ouais, je vous mettrai les références.
Trop bien.
Un petit jingle, une petite pause musicale, on enchaîne. Qu'est-ce
qu'on va enchaîner? Un petit jingle, là, cette fois-ci peut-être sans publicité,
mais avec de l'argent.
Pas mal.
Creature Shock Radio FM.
C'est parti.
Et donc c'est parti, c'est Pablo.
Alors moi je vais vous présenter Oppenheimer. C'est le dernier film de Christopher Nolan. Bon, un blockbuster cérébral, hein, comme souvent chez ce réalisateur, mais un film incarné et sensible. Je vous propose le synopsis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1942, convaincu que l'Allemagne nazie est en train de développer une arme nucléaire, les États-Unis demandent au lieutenant général Leslie Groves Jr. de recruter le physicien J. Robert Oppenheimer pour travailler sur le projet ultra secret Manhattan. Oppenheimer et son équipe de scientifiques passent des années à développer et à concevoir la bombe atomique. Leur travail se concrétise le 16 juillet 1945 alors qu'ils assistent à la première explosion nucléaire au monde qui va changer à jamais le cours de l'histoire. Bon, ce qui est vraiment intéressant dans ce film, il me semble, alors d'abord il y a toujours la complexité propre à Nolan, c'est un film, il est obsédé par le temps, on le sait bien. Ici le récit se fait selon trois temporalités. Premièrement la mise en place du projet Manhattan, proprement dite. Ensuite on a en parallèle le procès d'Oppenheimer après la guerre. Et puis troisième moment, ses souvenirs d'avant le projet. J'ai trouvé le casting et le jeu des acteurs, mais alors très réussi. Évidemment, on a le beau Cillian Murphy dans le rôle principal, tourmenté et méditatif. Vraiment une vraie performance d'acteur. Il a perdu des kilos, il est anormalement maigre. On a Matt Damon, très efficace. Et on a surtout aussi Robert Downey Jr., qui est excellent en contre-emploi. Moi, il me semble. C'est surtout alors un film de la relation ambiguë qu'il peut y avoir entre la science et la politique. La question qu'il pose est la suivante. La science peut-elle être totalement indépendante de la politique des États et de leur contexte? Ou au contraire, la science est-elle nécessairement politique, inscrite dans un contexte historique et géostratégique? C'est aussi un film qui nous plonge au cœur des dilemmes moraux des scientifiques et de leurs différents choix. Il y a cette scène extraordinaire où Après la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki, Oppenheimer est acclamé en héros, alors qu'il est au bord de la crise d'angoisse. Il est dégoûté par l'utilisation de sa création. Donc on voit bien qu'ici, l'Amérique crée des héros et les détruit juste après. En effet, c'est aussi un film de procès, puisque après la guerre, Oppenheimer est accusé d'accointance avec le communisme. Il y a quelque chose qui m'a interrogé aussi. J'ai quand même l'impression de retrouver une mythe. Enfin, pour moi, c'est quand même, on retrouve le mythe de Prométhée, le fameux et célèbre mythe de Prométhée. C'est-à-dire ce titan Prométhée qui avait volé le feu aux dieux et qui l'avait donné aux humains pour les sauver de leur destruction prochaine. Mais ce titan qui fut aussi, à la suite de ça, châtié par Zeus pour son arrogance. Voilà. Bon, je sais que Christopher Nolan est un réalisateur qui divise.
D'ailleurs, je ne me prononcerai pas.
Tout à fait. Mais je sais que.
Je n'ai pas
voilà,
vu le film.
En général, les gens le trouvent trop cérébral à la fin. T'arrives à la fin du film, la dernière image, tu te dis qu'il va falloir revoir le film. Ou alors, il y en a qui, justement, aiment ce côté puzzle, déconstruction à reconstruire, etc. Voilà. Moi, je vous conseille d'aller vous faire votre propre avis. Selon moi, c'est quand même un très bon Christopher Nolan. Merci de votre écoute, les amis. Bon ciné.
Merci Pablo.
Moi je rajouterais par rapport à ce que tu viens de dire et la présentation du film, je vous conseillerais aussi un roman graphique qui s'appelle La Bombe de Alcant, Bollé et Rodier, je sais plus. Bref, aux éditions Glénat. Alors effectivement, c'est un gros pavé, mais vous avez toute l'histoire finalement de ce projet Manhattan et aussi tous les à côté. Et toutes les questions que cela peut poser aussi sur l'explosion qui a eu lieu, quoi, les deux explosions.
Excellente bande dessinée.
Une excellente bande dessinée.
Mais merci pour la référence, parce que c'est vrai que quand tu sors du film, tu te dis en fait que tu connais pas grand chose de cette histoire.
Oui.
Et t'as envie de creuser quand même un peu, quoi.
Bah là, y a de quoi creuser, hein. Y a quand même 1000 pages de bande dessinée.
Oula, ouais.
C'est un gros pavé.
1000 pages? Parce que je me souviens de l'avoir lu, mais je me souviens pas que ça.
Si, là, je suis sur le site.
Ah, ouais.
Glénat, 1000 pages.
Wow. Mais c'est en roman graphique.
Feuilles.
Ouais, mais c'est génial.
Ouais.
Mais c'est vraiment super.
Top, les gars.
Voilà.
La Bombe et Oppenheimer. Ouais.
Bon, on va passer un petit morceau de musique pour remettre un petit peu.
Un petit Guns.
Oui, tout à fait.
Allez, on se fait une opinion sur Guns N' Roses.
Voilà.
Voilà.
Le titre s'appelle Perhaps.
Donc peut-être qu'on va aimer, peut-être pas.
Et voilà.
Peut-être qu'on va avoir un nouvel album, mais peut-être
c'est
pas.
C'est ça.
En tout cas, c'est maintenant, c'est sur Radio G.
101.5.
La radio qui fait le point.
Voilà, c'était Band Geek Mafia, votre émission Info Culture, un mercredi sur deux sur Radio G.
Yes.
C'est beau, Manette.
Yes.
Ouais,
yes.
C'était ça, super
y a,
sympa.
Il n'y a pas eu trop de bêtises.
Demain, 2 mètres, ça a été mené, Seb.
Merci Seb, merci Pablo, merci Romain.
Merci à toi.
Merci à tous.
On se retrouve dans 15 jours. Donc ouais. On sera début octobre, hein, je crois. On sera le 4 ouais. octobre, dans 15 jours, pour parler cinéma, BD, musique.
On aura des séries, tout ce qu'on aime.
Je fais une petite bise du côté de l'Espagne. Moi, du
on
côté
fait une
de
bise
Paris
à tout le monde. Salut.
Salut. Salut. Bisous.
The day I follow Aubrey Hill Clayton on a wet deck.